Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit du monde d'où vous nous écoutez, puisque 40% de nos auditeurs demeurent hors des frontières de l'Hexagone français, bienvenue dans cette émission de Canal Académie consacrée à la Chine. Cette année 2010 voit non seulement l'exposition universelle de Shanghai, mais aussi la célébration des 400 ans de la mort d'un pionnier des échanges de savoir entre la Chine et l'Europe, un jésuite, Matteo Ricci, qui vécut de 1552 à 1610, qui est mort et enterré à Pékin avec la permission exceptionnelle de l'empereur. Et pour commémorer cette année Matteo Ricci, plusieurs événements sont organisés à l'initiative de la Compagnie de Jésus et des éditions du CERF, par exemple, des colloques scientifiques, parce que Ricci était un savant, des expositions, des voyages, des émissions de télévision et bien sûr des livres. Et c'est d'un livre fondamental dont nous allons parler dans cette émission, avec mon invité, le père Michel Masson, jésuite lui aussi. Bonjour mon père.
Bonjour.
Je ne sais pas si vous avez traversé tout le continent pour venir jusqu'à nous, mais vous exercez vos fonctions de directeur de l'Institut Ricci, je pense, là-bas, en Chine.
Non, surtout à Paris.
À Paris maintenant?
Non, oui. J'ai passé 25 ans à Hong Kong et à Taïwan, où je me suis entre autres occupé de quelque chose qui s'appelait China News Analysis, c'est-à-dire on lisait la presse chinoise pour suivre les réformes inaugurées par Deng Xiaoping en 1978. Et il y a 10 ans, je suis revenu en France et là, j'ai pris la succession du père Lard, le père Claude Lard, qui avait fondé l'Institut Ricci à Paris en 1971 et qui est tombé malade, en fait, à cette époque-là. C'était au moment où paraissait aussi le grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise.
Absolument. Alors, vous-même, vous aviez une formation de sinologue?
Oui, alors j'ai fait des études de chinois à Taïwan, puis un doctorat d'histoire chinoise à Harvard. Et c'est après cela donc que je suis retourné en quelque sorte à Hong Kong et à Taïwan pour en gros 25 ans.
Alors vous venez de donner une traduction, une introduction et des notes, il faut dire que tout ça a constitué un gros travail je crois, au livre de Liang Shuming intitulé en français « Les idées maîtresses de la culture chinoise ». Alors c'est un livre qui a été publié conjointement par l'Institut Ricci et les éditions du CERF dans leur collection « Patrimoine ». Ma toute première question, Michel Masson, ce sera qui est l'auteur, ce Liang Shuming? Shuming, dit-on, ou Suming?
Shuming.
Shuming, bon, je vous laisse le prononcer correctement, mieux que moi. Qui est-il?
D'abord, il est né en 1893 et mort en 1988, c'est-à-dire qu'il couvre tout le XXe siècle. Et c'est déjà pour moi quelque chose d'assez important, parce que je suis spécialisé un peu dans l'histoire des idées en Chine au XXe siècle. Et nous avons là, effectivement, toute une brochette, si on peut dire, de penseurs qui ont couvert le XXe siècle, c'est-à-dire qui ont grandi encore dans une Chine impériale, et ensuite sont passés par tous les rebonds et les bouleversements du XXe siècle. Du reste, il le dit lui-même à un moment, je crois, dans une note de ce livre, il a d'abord été lycéen en faveur de la monarchie constitutionnelle. Ensuite, il a fait la révolution de 1911. Ensuite, se demandant ce qu'il allait faire pour son pays, il s'est lancé dans l'éducation et puis ensuite dans ce qu'on appelle la reconstruction rurale, c'est-à-dire il travaillait, il cherchait d'organiser des communautés rurales. Ensuite, il y a eu la guerre avec les Japonais et donc c'était la résistance envers les Japonais. Ensuite, à partir des années 43, il a essayé de travailler avec quelques personnes qui essaient d'éviter qu'il y ait une guerre civile. Et la guerre civile a eu lieu, comme nous le savons. Donc, c'est là une génération tout à fait exceptionnelle de gens qui, entre 1920 et 1950, ont eu 30 ans pour réfléchir.
Et c'est aussi un grand connaisseur des penseurs de l'Occident, justement. Il n'est pas seulement un intellectuel chinois isolé en Chine. Il connaît tout et tout le monde, enfin, d'après ce qu'on lit dans son livre.
Non, enfin, ce n'est pas tout à fait exact de dire que c'est un grand penseur. Il y a eu des grands penseurs parmi ses contemporains, par exemple de la philosophie occidentale. Lui a lu pour essayer de répondre aux questions qu'il se posait, donc qui étaient essentiellement les questions de ce qui était arrivé à la Chine au cours de l'histoire, donc de l'histoire chinoise. Donc il a lu beaucoup de livres sur l'histoire européenne, en contradiction pour ainsi dire, Alors, il a lu, par exemple, aussi notre Montesquieu, mais il a aussi lu Pirène, par exemple, et d'autres, en grande partie, du reste des historiens ou des sociologues de langue anglaise, plutôt. Et aussi, donc, des Japonais, ou ceux qui écrivaient à cette époque-là, quelques-uns de ses confrères, plus spécialisés dans des histoires d'histoire, de géographie, de démographie. Donc, je ne dirais pas qu'il a une connaissance, une très grande connaissance, de, par exemple, de la pensée occidentale, mais il s'est très bien tenu au courant des études sur les sujets qui lui importaient.
Et comment a-t-il rédigé cet ouvrage ? Est-ce que c'était dans des circonstances particulières et à quelle époque, justement ?
Je crois qu'il l'explique aussi dans l'introduction. Il a commencé à faire un livre sans doute dans les années 30 et après cela, il s'est aperçu que ça ne suffisait pas. Donc, il s'est remis à... C'était l'époque où il travaillait justement dans les campagnes. Il a aussi rencontré Mao Tse-tung entre-temps.
Comment a-t-il traversé la révolution ? Quel a été son positionnement ?
Oui, alors là, c'est un des sujets intéressants. Quand je faisais ma thèse, il y avait un livre que nous lisions, nous, pauvres étudiants. Enfin, pas pauvres, mais... du professeur Joseph Levinson, qui était professeur à Berkeley, et dont la thèse était qu'entre 1920 et 1950, tout intellectuel chinois qui était un peu sincère et un peu lucide ne pouvait que devenir marxiste. Et que si on ne le faisait pas, si on s'en tenait à la tradition ou si on partait dans un libéralisme un peu désincarné, c'était un peu de la mauvaise foi. Or, justement, il y a un certain nombre de gens de cette génération qui ne correspondent pas du tout à cette situation, et notamment Liang Shuming, qui n'était pas d'accord avec Mao, enfin sur l'emploi de la violence, ni non plus sur les interprétations justement que pouvait faire Mao de la société chinoise, de la lutte des classes, etc. Mais ils ont discuté ensemble à Yan'an dans les années 37. Vous savez, Yan'an, donc c'était ce haut lieu où était réfugiée une des grandes bases communistes durant la guerre contre les Japonais. Donc, Liang Shuming regardait Mao d'un tout petit peu de haut en disant « Je comprends mieux l'histoire chinoise que vous ». Mais en même temps, il avait du respect pour Mao, ne serait-ce que parce que Mao commençait par les campagnes. Et alors, tous les deux, je crois, la partageaient une même aversion pour les grandes villes. Et donc, en 1949, bon bien, Liang Shuming ne va pas quitter la Chine pour Taïwan comme d'autres intellectuels. Mao va lui proposer un poste au gouvernement qu'il va refuser, mais en même temps en acceptant de participer à un certain nombre de comités, etc. Donc, c'est une position extrêmement complexe. Sur l'idée de base, finalement, qui est un peu celle de ce livre, c'est que la crise de la Chine est telle que, de toute façon, personne n'en a la solution.
En fait, l'objectif de ce livre, Les idées maîtresses de la culture chinoise, il veut répondre à un certain nombre de questions ou il veut au contraire démontrer les différences entre la Chine et l'Occident. Quel est son objectif en tant qu'auteur ?
Sa question, donc, c'est celle bon, un peu de sa génération, mais lui, il la porte d'une façon tout à fait spéciale. C'est qu'il est un peu obsédé par le problème, c'est ça, quel est le problème de la Chine à l'heure de la modernisation. Et alors, c'est là qu'il se heurte, du reste, à un autre philosophe, Fang Yolan, que j'ai aussi étudié par ailleurs, pour qui, en quelque sorte, la modernisation ne posait pas de problème. Il y avait toujours eu des sociétés pré-modernes, c'est-à-dire des sociétés avant l'arrivée des machines, donc des sociétés fondées sur l'agriculture, sur la famille, et où toute l'économie reposait sur la famille, et où donc on donnait une grande importance aux vertus familiales, comme la piété filiale, etc.
On va y revenir,
et
oui.
Et donc que la Chine n'était pas une exception, et que la modernisation, bon, était arrivée bien sûr en Occident en premier, mais que la modernisation de soi était une notion universelle. Donc il n'y avait pas de problème. Là, c'était un peu d'un grand optimisme de la part de ce philosophe. Et alors c'est là que Liang Shuming l'attaque du reste dès le premier chapitre en disant « mais pas du tout, la société chinoise avant la modernisation, donc jusqu'à la fin du XIXe siècle, n'est pas du tout comme la société européenne au Moyen-Âge ou au début de l'époque moderne. C'est totalement différent. »
Différent. Donc il va faire tout son livre pour montrer justement ces différences, ou en tout cas nous les faire comprendre. Michel Masson, vous avez traduit donc Liang Shuming. Quelques mots sur son écriture, sur la qualité de son écriture, sur la manière dont il aborde les problèmes.
Pour ce qui est de l'écriture, je ne suis pas très bien placé pour
mais
en
si,
parler. Mais, enfin, mais des amis chinois m'ont dit qu'effectivement, ce n'était pas toujours très facile à comprendre. Et donc, il fallait s'y reprendre à deux fois. Et alors là, j'ai bénéficié de l'aide justement de Madame Zhao Xiaoqin, qui est une Chinoise qui a fini ses études secondaires au début de la Révolution culturelle et qui vit en France depuis une vingtaine d'années, qui a découvert ce livre, qui a découvert Liang Shuming, parce que ces générations-là n'en entendaient pas parler, bien entendu, a trouvé ça fort intéressant et donc a accepté de revoir ma traduction. Donc, vous savez, c'est comme beaucoup de tous ces livres, ce n'est pas difficile à lire une page, mais vouloir le lire entièrement en chinois d'un bout à l'autre, ça risque d'être un peu fatigant, même pour un sinologue.
Mais en français, en tout cas dans votre traduction, je dois dire qu'on suit très bien le raisonnement de l'auteur. C'est vrai, c'est un gros livre, il est très dense, mais tout de même, sa manière d'écrire est claire, il est lisible, il est très construit, il est très rationnel au fond dans son approche. Et donc, ça rend tout de même la question accessible. Alors, Liang Shuming donne 14 caractéristiques pertinentes de la culture chinoise, mais peut-être auparavant, et avant qu'on détaille quelques-unes de ces caractéristiques avec vous, Michel Masson, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de comprendre ce que Liang Shuming entend par le mot « culture » et « culture chinoise » ? Est-ce que c'est la même notion que nous entendons, nous ?
Bien, je pense que c'est un peu la notion que des historiens ou des anthropologues même, je crois. Il s'en explique tout au début, la première page, je crois, il dit « par culture, c'est tout ce qui constitue le contexte dans lequel la vie humaine s'organise. Donc c'est à la fois les institutions, c'est les traditions, c'est les lois s'il y en a, c'est les systèmes de gouvernement. Et donc c'est tout cela. Donc nous ne parlons pas de la culture chinoise avec deux grands C
majuscules.
Oui, c'est
voilà,
ça. C'est pas Lao Tzu, c'est magnifique. Voilà. Non. On est vraiment sur le terrain. Et c'est ça qu'il entend par culture. Je pense qu'après, on doit pouvoir lui en faire grief, parce que plus tard, il y a des gens, par exemple, à Taïwan, comme Inrai Guang, dans les années 60, qui s'en prend à un certain nombre de Confucéens culturalistes de Taïwan, qui parlent de culture sans savoir, dit-il, qu'il y a 100 différentes définitions de la culture parmi les anthropologues. Peut-être, mais je crois que Liang Shuming, non, ne tombe pas dans ce travers-là. Donc, il parle de culture, c'est à la fois... Est-ce qu'il y a de l'armée? Est-ce qu'il y a de la science? Est-ce qu'il y a un État? Est-ce qu'il y a des partis politiques?
C'est la vie au sens très large, la vie humaine, l'organisation humaine au sens très large. Nous allons marquer une courte pause, vous retrouver dans un court instant pour aborder justement les caractéristiques ou quelques-unes des caractéristiques de cette culture chinoise telle que Liang Shuming les définit.
Escalope d'éléphant, sauce aux échalotes, singe au vin de Bordeaux, ou encore ours à la sauce troussonnelle, tel pouvait être le menu du réveillon du 31 décembre 1870. Il faut dire que le siège de Paris a donné lieu à de bien curieuses expériences gastronomiques. Écoutez le curieux récit de cette période de l'histoire, elle vous est racontée par notre chroniqueur gastronomique Jean Vitaud. Les expériences gastronomiques du siège de 1870, une émission à télécharger librement sur le site de canalacademy.com.
Nous revenons dans notre studio en compagnie du père Michel Masson, qui donc a donné une introduction et une traduction de l'œuvre de Liang Shuming, Les idées maîtresses de la culture chinoise. Alors pour reprendre quelques-unes de ces idées maîtresses, et il me semble que celle qui apparaît de manière la plus évidente, c'est la notion de famille en Chine, c'est-à-dire que l'existence en Chine n'est pas individuelle, elle n'est même pas collective, elle est familiale. Alors expliquez-nous ce qu'il entend par cette caractéristique.
C'est-à-dire, je pense qu'un peu partout, la vie de famille est familiale, effectivement. Ce qu'il veut dire, et alors c'est là justement qu'il se distance du philosophe que j'ai mentionné plus haut, c'est que cette vie familiale a une existence beaucoup plus spéciale en Chine que, par exemple, dans nos pays. Alors, cela veut dire que, quand il critique ce philosophe, il va dire « mais non, l'importance de la famille n'est pas liée forcément aux conditions économiques ». Alors, il donne par exemple des exemples de l'époque tout à fait où, en Russie, on remet l'accent sur l'éducation familiale. Par exemple, ce n'est pas l'État qui peut éduquer parfaitement les enfants. Il donne aussi l'exemple de la Suisse et tout cela. Donc, en Chine, cette vie familiale, c'est-à-dire ces relations à l'intérieur de la famille, bon, comme partout, qui sont des relations faites à la fois d'obligation, surtout, et de déférence. Cette relation-là, en Chine, va s'étendre à toute la société. C'est-à-dire que, alors qu'en Occident, dira Liang Shuming, vous avez des organisations, par exemple, qui se cooptent indépendamment de la famille, y compris le christianisme, auquel il donne une grande importance à ce moment-là, pour dire un peu que c'est le christianisme, d'une certaine façon, qui a inventé ces organisations différentes de la famille. En Chine, tout le tissu social va être alimenté, tissé, vivifié par cette même démarche donc, qu'on va appeler de l'éthique de réciprocité ou de l'éthique de devoir réciproque, c'est-à-dire on ne parlera pas de droit, il n'y a que des devoirs. Et alors ceci part donc dans la famille, à l'égard des parents, à l'égard des frères, des amis, etc. Et ça va se retrouver dans la vie professionnelle. Ça va aussi se porter sur l'empereur, donc le ministre aussi a une relation à l'égard de l'empereur qui est une relation quasi filiale.
Alors, est-ce qu'on peut dire dans toutes les classes sociales? Parce que justement, j'ai l'impression que Liang Suming dit qu'il n'y a pas de classe sociale, parce que justement, l'organisation familiale a remplacé les classes sociales. On peut dire ça comme ça?
Non, ça, c'est peut-être sans doute beaucoup plus compliqué. Mais oui, dans toutes les classes sociales, cela se passe. Et même actuellement en Chine, après tous les bouleversements qu'il y a et dans cette société dont beaucoup d'intellectuels déplorent le manque de repères moraux, on continue quand même à dire, mais il reste encore cette relation à l'intérieur de la famille qui reste très importante.
Alors cette éthique de réciprocité, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? C'est-à-dire, on a envers l'autre un devoir de comportement, d'obligation?
Oui, et c'est-à-dire, c'est apprendre dans un contexte aussi donc où les lois n'ont pas d'importance, mais que les droits n'ont pas d'importance. C'est-à-dire, alors que, bon, c'est la façon dont des gens comme Liang Shuming vont regarder, par exemple, le christianisme, qui vous donne un décalogue au départ, un décalogue donc qui est forcément extérieur.
Ça leur paraît étranger.
Eux, ça leur paraît étranger. Tout part du cœur, et le cœur lie spontanément, d'une certaine façon, ces relations de devoir et d'affection, car les deux sont mêlés, que vous avez envers les parents et envers le reste de la famille, etc. Et c'est tout cela qui va s'élargir à la société.
Alors, est-ce que c'est cela qui, justement, explique qu'il n'y aurait pas de démocratie au sens occidental du mot, qu'il n'y aurait pas de droits de l'homme, justement, en Chine?
Alors cela fait partie, effectivement, ce sont des chapitres que Liang Shuming va traiter au cours de son livre. Quand il dit que l'Occident donc est organisé, est fait d'organisations qui sont compétitives et tout, c'est-à-dire il va souligner donc que l'Occident se développe en fonction d'affrontements entre groupes. Alors, pour un Chinois confucéen, ces affrontements semblent irrationnels, mais en même temps, et alors c'est là quelque chose sur lequel Liang Shuming va beaucoup insister, à force de s'affronter, l'Occident finit par dégager des processus rationnels d'organisation. Donc il va dire, bah, au terme, ça va être peut-être les Nations Unies, ou enfin la Société des Nations à ce moment-là, ça va être le régime bon démocratique, au lieu de se taper dessus, on va voter. Et alors, ce que l'Occident a ainsi obtenu à force de gérer des conflits, la Chine, d'une certaine façon, à force de vouloir éviter les conflits, n'a pas avancé. Et donc, comme il dit, non seulement la Chine, bon, est sur sa ligne à elle, mais sur sa ligne à elle, elle tourne en rond depuis plusieurs siècles.
Donc il y a une stagnation qui s'explique justement par ce manque d'affrontement des groupes.
Voilà.
C'est sa théorie.
C'est sa théorie, et donc il va montrer qu'effectivement, au Moyen-Âge, par exemple, même les guildes chinoises ne sont pas organisées de la façon systématique dont elles seront en Occident, des choses comme ça.
Alors, quelle est la place de la religion dans cette société chinoise? Est-ce qu'elle occupe une place essentielle? Est-ce que Liang Shuming fait une distinction entre la religion, la morale, les rites? J'ai cru comprendre que ce n'était pas tout à fait la même chose pour lui.
Oui, bien tout cela, c'est même encore, je dirais, une question qui est débattue actuellement en Chine, ce rapport un peu de la religion, de la morale, etc. Pour Liang Shuming, non, il n'y a pas de religion en Chine. Et ça, c'est le titre d'un de ses chapitres, même, je crois, hein. Un pays sans religion, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bouddhisme ni de taoïsme, mais tout cela, je dirais, ne l'intéresse pas. Dans son analyse, il veut dire qu'il n'y a pas de religion qui joue un rôle comme la religion en Occident. À la place, il y a alors ces fameux rites, c'est-à-dire donc ces coutumes, ces lois non écrites qui conditionnent la façon dont les gens vont effectivement être capables d'exprimer leur cœur, leur sincérité, ce qu'ils vivent intérieurement. Et alors là-dessus, du reste, Liang Shuming est assez prudent. Il y a un endroit, il dira, mais évidemment, les religions ont du bon. Alors, il donne l'exemple de je ne sais quelle région en Chine où il y a à la fois une communauté musulmane et une communauté rane. Il dit, alors les ranes qui sont là parlent tous, disent que Confucius c'est magnifique, mais ça ne les empêche pas de fumer de l'opium, tandis que les musulmans, parce qu'ils vont à la mosquée, etc., ils ne fument pas l'opium.
Donc il reconnaît bien qu'il
y a une efficacité, si on peut dire, des religions pour la moralité, mais en même temps, il maintient que la formule non religieuse de Confucius est supérieure, parce que justement, elle se réfère toujours au cœur de l'individu.
Oui, il dit justement que l'existence est dominée par un souci d'intériorité et que ça la différencie de l'existence occidentale qui, elle, serait plus dominée par un souci de collectivité, enfin d'insertion dans la collectivité. Est-ce que vous pouvez expliquer son point de vue?
Oui, mais c'est un point de vue, je crois, qui est partagé par beaucoup d'intellectuels de cette époque et même plus récemment. Il y a par exemple, souvent je cite cette phrase de Jin Guanta, qui est un ancien spécialiste de la physique, qui est devenu historien des idées, qui dit « Dans la culture chinoise, Bon, alors on pourrait dire quelle culture chinoise, M. Jin Guanta, après la révolution culturelle, mais de quoi parlons-nous ? Enfin, dans la culture chinoise, il n'y a que deux pôles de l'existence, c'est à la fois donc, le service de la société et la perfection morale individuelle. Et donc, sous-entendu, et même pas tellement sous-entendu, on n'a pas besoin d'un troisième pôle qui serait justement un dieu personnel. Et alors ceci, j'irais court même, enfin encore actuellement en Chine, c'est Li Zhiro, qui est un philosophe assez connu aussi, qui disait à des étudiants, il faut étudier le christianisme, il faut se poser des questions, pourquoi y a-t-il des croix partout en Occident ? Mais bien sûr, il ne s'agit pas de devenir chrétien. Donc il y a cette idée de la culture chinoise qui perdure et dont on nous dit, alors actuellement, que, par exemple, le professeur Chen Lei au département de philosophie de l'Université de Pékin, qui dit, on ne sait pas encore très bien ce qui va se passer dans la première moitié du XXIe siècle, mais certainement à la fin du XXIe siècle, il y aura un retour de la tradition et du confucianisme. Donc, alors, tous ces sujets, je dirais, point d'interrogation, pour surtout pas que les étrangers prophétisent ce qui peut se passer, mais c'est très important de savoir ce que les Chinois actuellement disent. Et alors là, Liang Shuming, effectivement, est en plein dedans.
Il y a aussi un chapitre dans ce livre qui est consacré à la position des lettrés. Est-ce qu'on peut dire un petit mot ? Parce que pour nous, effectivement, les grands Chinois, c'est Confucius, ce sont les lettrés. Est-ce que cela a autant d'importance qu'en dit Liang Shuming ?
Bien, dans la société traditionnelle, oui. Et c'est justement ce qu'a découvert votre ami, là, monsieur Matteo Ricci, que l'empereur n'était pas le seul à avoir du pouvoir en Chine, que beaucoup du pouvoir de l'empereur pouvait être partagé ou parfois usurpé justement par cette catégorie, ce groupe qu'on appelle les lettrés. Alors les lettrés, c'était qui dans la Chine impériale, enfin. C'était à la fois donc les lettrés, donc qui avaient passé les examens, donc qui sortaient de l'ENA et qui devenaient fonctionnaires. Et puis, il y avait tous les lettrés qui n'avaient pas réussi les examens, mais qui n'en étaient pas moins lettrés, et donc qui vivaient dans leur ville ou dans leur bourg, où ils avaient beaucoup d'autorité morale pour la gestion des choses quotidiennes. Et alors, ces lettrés sont tous formés au confucianisme, effectivement. Donc, ils sont tous censés vivre cette morale de l'intériorité. Et ça, Liang Shuming est très clair là-dessus. Il dit, on dit souvent que Confucius enseigne une espèce de morale pour bien se conduire dans la société, bien servir la société, mais il dit, c'est pas exactement ça. Finalement, Confucius voulait former l'homme individuel, l'élever dans sa vie spirituelle. Et donc, les lettrés sont censés faire tout cela, même des fois s'ils n'ont pas beaucoup de connaissances techniques. Alors, ça va être des problèmes, ça va être des débats tout au long de l'histoire. Est-ce que des progrès, justement, des progrès scientifiques ou des progrès techniques sont nécessaires à la survie du confucianisme comme idéologie d'État ? Alors aussi, un point qu'à propos des lettrés, un point que souligne Liang Shuming, c'est que le lettré a toujours le droit de se retirer des affaires et donc de repartir chez lui, planter ses choux. Enfin, pas exactement planter ses choux, chez lui, il va animer la vie locale, il va prendre l'initiative de construire un pont, de réparer une route, etc. Mais il y a cette liberté, il n'est pas astreint à rester à son poste.
C'est une liberté dans un pays où on dit qu'il n'y a pas trop de liberté, justement.
Voilà, c'est pour ça qu'il mentionne cette particularité-là, qui est bien connue des sinologues, mais enfin, on n'aurait pas l'idée de la mettre tout de suite, peut-être, dans une liste de départ.
Est-ce qu'on a l'équivalent du lettré en Occident ? À la fois, ce n'est pas vraiment un intellectuel philosophe, ce n'est pas non plus un homme politique. Est-ce qu'il y a l'équivalent ? Quelqu'un qui jouerait un rôle de la même manière ?
Non, c'est certainement pas les intellectuels au sens où Jean-Paul Sartre est un intellectuel.
Oui, oui, par exemple, oui.
C'est peut-être un peu le rôle des clercs à un certain moment, peut-être au Moyen Âge.
Au Moyen Âge, oui.
Bon, mais alors on dit évidemment, ce sont des généralistes. Effectivement, très peu vont se spécialiser, par exemple dans les mathématiques ou l'astronomie. Quoique Matteo Ricci en trouve quelques-uns, je dirais qu'ils vont s'intéresser à ce qu'il apporte. Mais enfin, les autres sont des généralistes. Donc, non, on peut pas. Je crois que c'est assez difficile, oui, de trouver quelque chose de comparable. Surtout au fait que quand même, donc, c'est eux qui ont accès à l'administration.
Mais ils ne sont jamais véritablement scientifiques. Il y a aussi tout ce rapport avec la science dont Liang Shuming dit qu'au fond, on n'a pas choisi en Chine la voie de la science. Et pourquoi ? Bien que la Chine ait inventé des choses importantes. Hein. Il fait bien cette nuance, bien sûr.
Oui, bah, c'est un problème que nous avons eu là, justement, encore à propos de Matteo Ricci pour faire cette exposition sur l'échange des savoirs. Alors, effectivement, Bon, il y a une tradition astronomique chinoise qui est très grande, il y a une tradition mathématique chinoise qui est très importante. Liang Xiuming lui-même en parle à propos simplement de la définition décimale du nombre pi. Donc c'est un Chinois qui a trouvé je ne sais combien de décimales bien avant Valentin Otto en Allemagne au XIIIe ou XIVe siècle. Donc il y a tout ce riche héritage scientifique chinois qui ne fait pas de doute et qui va bien au-delà de ce qu'on dit toujours, bon, la poudre à canon, la boussole, bon, c'est vrai. Mais comme il le dit à un endroit, toutes ces inventions, pour que ça continue, il faut que ça soit organisé, il faut que ça soit repris, il faut que ça soit développé. Et tout ça n'est pas arrivé en Chine. Bon, ça c'est un sujet très connu des sinologues, mais surtout depuis les études de M. Needham sur l'histoire des sciences et des techniques en Chine. Bouleversement des dynasties, tout à coup tout le matériel disparaît, les bibliothèques brûlent, et puis aussi une certaine tendance aux intellectuels de ne pas dire aux autres ce qu'ils sont en train de chercher ou de trouver. Donc il n'y a jamais eu cette organisation, si on veut, de la recherche scientifique qu'il y a eu en Occident, au moins à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Et alors effectivement, la Chine patine à sa façon, mais là aussi ce sont des choses très complexes, parce qu'il y a quelqu'un qui a publié il y a 5 ou 6 ans un livre qui s'appelle « Euclide en Chine », qui montre bien comment Euclide, justement présenté et traduit par Matteo Ricci, a à la fois fasciné un petit nombre de mathématiciens chinois par cette logique et tout, mais que pour l'ensemble des autres mathématiciens, cette logique justement ne tombait absolument pas dans leur catégorie. Et donc ils ont démonté Euclide, pour ainsi dire, ils l'ont recalculé à partir de leur propre procédé pour se réapproprier Euclide. Donc toutes ces choses sont d'une grande complexité.
On marque de nouveau une courte pause et on se retrouve dans un instant avec le père Michel Masson pour mettre une conclusion sur cet ouvrage brièvement présenté vu sa densité.
Poussé par la passion, par les mots de Picasso, je suis devenu photographe. Ainsi s'exprime Lucien Clergue de l'Académie des Beaux-Arts. Né à Arles en 1934, Lucien Clergue a marqué l'histoire de la photographie du XXe siècle. À ses débuts, il a cherché à travers la photo des correspondances avec l'univers des peintres et des poètes qu'il aimait et rencontrait. Dans ce contexte, il s'est lié d'amitié avec Picasso, une rencontre déterminante. Lucien Clergue célèbre Picasso le Maestro, une émission Carrefour des Arts à télécharger librement sur Canal Académie.
Masson, je voudrais savoir si l'ouvrage de Liang Xiuming, Les idées maîtresses de la culture chinoise, c'est un titre qui est très alléchant, est-ce que cet essai nous aide à réfléchir, nous, aujourd'hui, sur la mentalité chinoise d'aujourd'hui, parce que ce livre, il date des années entre 30 et 49. Est-ce qu'il peut nous aider à mieux percevoir la mentalité des Chinois aujourd'hui ?
Bien, écoutez, quand j'ai commencé à m'intéresser à traduire ce livre, donc c'était en 1978 à l'Université chinoise de Hong Kong, la révolution culturelle se terminait. Et donc, Liang Xiuming était encore dans le shéol, si je peux dire, donc de toute cette génération d'intellectuels. Et donc, ce que je faisais en commençant à le traduire, c'était un peu de l'archéologie, pour ainsi dire. Sinon, que c'était intéressant. Alors, assez rapidement, quand même, au bout d'un ou deux ans, son nom a commencé à réapparaître dans la presse de Pékin. On l'a nommé, je crois, membre d'un comité pour la réforme de la Constitution. Et puis, je cite quelque part un article qui dit, mais vous savez, finalement, il y a pas mal d'intellectuels, d'autrefois des anciens intellectuels, qui avaient des idées intéressantes, peut-être bien, pour le gouvernement du pays, etc. Et alors ensuite, j'ai un peu laissé tomber cette traduction pendant 20 ans pour la reprendre à peu près en 2005. Et alors effectivement, maintenant, en 2005, Liang Xiuming est sorti du shéol. Je ne sais pas encore très bien dans quel paradis, dans quel étage du paradis il faut le situer. Mais par exemple, j'ai un peu travaillé justement des écrits du professeur Chen Lei du département de philosophie à l'Université de Pékin, qui, comme quelqu'un qui a dû naître autour des années 49, donc qui a été élevé dans cette Chine maoïste, où toute cette période 1900-1949 n'existait pas, on n'en parlait pas, ou simplement pour dire c'était du féodalisme, etc. Et donc ce monsieur, qui est maintenant professeur de philosophie, donc on voit bien, il a fait tout un travail pour se réapproprier toute cette période. Donc pour lire le philosophe dont j'ai parlé tout à l'heure, Liang Xiuming et d'autres, Bon, ce qui est un peu amusant, parce que moi, ces auteurs-là, je les ai lus justement quand je faisais ma thèse à Boston, voilà, comme ça, directement. Mais pour un intellectuel chinois de cette génération-là, il a fallu qu'il attende 1978 pour pouvoir avoir accès à tout ce passé dont il découvre que c'est son passé intellectuel à lui, dont il faut bien tenir compte. Et alors, qui a écrit plusieurs articles justement sur Liang Shuming, en prenant ça très au sérieux. Et alors, en avançant aussi l'idée intéressante que ce que fait Liang Shuming est assez proche de ce qu'a fait Max Weber dans son livre justement sur la Chine, qu'on a traduit en français sous le titre Confucianisme et Taoïsme, et qui est donc un des quatre volumes des Aufsätze zur Welt, sur la religion et sociologie de Max Weber, donc, dont le premier tome est le fameux livre sur l'éthique protestante. Et après cela, Max Weber donc, s'est tourné vers l'Inde, vers l'ancien Israël, vers la Chine, pour voir si quelque chose de semblable, d'analogue à l'éthique protestante pouvait se retrouver dans ces pays-là et avoir quelques rapports avec un capitalisme possible. Alors je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant. Le livre de Max Weber est un peu, vous savez, une chasse, un terrain de bataille même, pourrait-on dire, entre sinologue et sociologue. Mais si quelqu'un voulait faire un jour une thèse sur le livre de Liang Shuming et le livre de Max Weber, ça pourrait être très intéressant. Alors la Chine d'aujourd'hui, oui. Vous disiez-vous, à la fin de son livre, alors c'est ça qui est un pas dramatique, enfin un peu dans ce livre, il va quand même dire donc toute cette éthique de la réciprocité, donc toute cette rationalité donc, qu'a un peu inventé Confucius, dont rêvait le confucianisme. Bon, effectivement, ce que le livre démontre, c'est que la Chine n'avait pas les moyens économiques simplement pour produire le genre de société où ce genre d'idéal pouvait être mis en place. Alors, avec la modernisation, dit Liang Shuming en 1949, on commence à avoir les moyens, effectivement, de penser un monde qui sera un monde d'amitié ou de bonne entente entre pays et tout, sinon on va à la catastrophe. Bon, alors, le thème de la catastrophe vers lequel va le monde, il est déjà là dans le livre en 1949, très clairement.
Oui, parce qu'il est mort en 1988, donc oui. Il a largement vu l'après-révolution culturelle. Est-ce qu'il a réactualisé sa pensée pour ressortir le livre ?
Il a publié un autre livre plutôt de philosophie. Et puis alors, le professeur américain qui lui-même avait fait sa thèse à Harvard sur Liang Shuming, qui avait publié ce livre en 1977-76, qu'il appelait Liang Shuming, le dernier confucéen. Et alors, c'est Alito, Guy Alito, qui est allé voir l'objet de sa thèse dans les années 85-86. Et alors, justement, la première remarque de Liang Shuming lui a dit « Ah, mais vous dites, je suis le dernier confucien, mais je ne suis pas confucien, je suis bouddhiste. » Mais enfin, là, il y a un dialogue donc, qui a été en chinois, qui a été publié, et où Alito donc, lui pose pas mal de questions. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de Mao Tse-tung ? Qu'est-ce que vous pensez de
Donc, il faudrait compléter, alors, finalement, l'autre livre. Merci.
Mais alors, la Chine d'aujourd'hui, effectivement, il y a cette question, on parlait de l'autre émission, on a parlé de la religion, de la morale. Donc, il y a toutes ces questions qui traversent actuellement la société chinoise, donc qui est un vaste chantier culturel. Comme le disait M. Wang Meng, qui était dans les années 80 ministre de la Culture, nous avons, depuis des décennies, nous avons tout démoli et maintenant il s'agit de reconstruire à partir des ressources disponibles. Ça peut être la tradition chinoise, bien sûr, la tradition occidentale et aussi peut-être bien la tradition communiste chinoise. Là aussi, il peut y avoir des éléments. Donc, on est là-dedans actuellement en Chine. Bon, on assiste à un retour de la tradition, effectivement, notamment religieuse. Enfin, il y a un retour assez massif vers les temples traditionnels. Le bouddhisme attire beaucoup de jeunes. Et tout cela, ce ne sont pas uniquement les vieilles dames de la campagne qui retournent au temple. Ce sont aussi les jeunes générations qui ont 30 ans, qui maintenant sont face à une société où il y a de la corruption, où il y a de la compétition et qui veulent savoir où tout cela mène. Donc, ils cherchent effectivement un sens à leur existence et font des choix. Et alors, là, on retrouve alors l'autre aspect de la pensée de Liang Shuming dans ce livre. Il le dit lui-même. Dans ce livre, il a au fond deux grandes questions. La première, c'est celle dont nous avons déjà parlé, donc pourquoi la Chine a-t-elle patiné, ne pouvait pas se moderniser? Et la deuxième, c'est le sens de l'existence. Alors ça qu'il tire de, notamment quand il a eu 19-20 ans, il a fait 2 ans de crise, il est devenu bouddhiste, il s'est enfermé dans sa chambre, ne voulait pas se marier au désespoir de ses parents. Mais c'est cette question-là continue de l'habiter. Il est resté bouddhiste, enfin observant au moins les jeûnes et mangeait pas de viande, etc. Et donc c'est cette question-là aussi donc, qu'on retrouve actuellement.
Éternelle question, alors.
Éternelle
évidemment.
Question, mais qui avait été complètement mise sous le tapis pendant 50 ans ou 70 ans parce que l'unique préoccupation des gouverneurs chinois ou des intellectuels, enfin de la masse des intellectuels, c'était moderniser la Chine, dépasser l'Angleterre en 20 ans, effacer la honte nationale. Et la morale, bon, était complètement
mise de côté,
voilà. Ou sujette à ces impératifs politiques. Alors, il n'y a que maintenant, enfin depuis 15-20 ans, où cette dimension culturelle, qu'il faut une morale de la modernité, qu'il ne suffit pas de vendre des t-shirts plus vite ou moins cher qu'ailleurs, pour que même que ce gros effort économique devienne vraiment une modernisation économique, il faut aussi une culture de la modernité, donc qui sera aussi chinoise que la modernité anglaise est anglaise, et dans laquelle il faut trouver donc des valeurs pour orienter tout cela.
C'est une vraie question, en effet, pour l'avenir. Alors, Père Masson, juste avant de nous quitter, à Shanghai, à l'exposition universelle au pavillon français, sera présentée l'édition numérique du grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise. Alors, juste un mot sur ce grand dictionnaire que, je suppose, Matteo Ricci avait donc publié et qui est maintenant en version numérique, si je comprends bien.
Non, Matteo Ricci n'a rien à voir avec ce dictionnaire. Il a rédigé un dictionnaire chinois-portugais. Non, mais alors, le dictionnaire dont il est question est un dictionnaire qui a été commencé à Macao puis transporté à Taïwan dans les années 50, justement par un groupe de jésuites dont le projet de départ était de faire un dictionnaire chinois et en 5 langues, l'anglais, le français, le latin, l'espagnol et le hongrois. Et alors, vers 1955, ils avaient un brouillon pour chacune de ces langues, un brouillon qui couvrait 40 volumes pour chacune de ces langues, et donc ils ont baissé les bras en disant « on ne va jamais y arriver ». Et tout ceci est resté sur les rayons jusqu'à ce que, vers 1965, les pères français, comme le père Aguin ou le père Lefeuve, disent « mais on pourrait peut-être faire un dictionnaire au moins français, plus petit, enfin, etc. ». Donc ils ont produit en 1976 le petit Ricci, comme on l'appelle, donc qui est un dictionnaire chinois-français de 6000 caractères. Et une fois que ça a été publié, les sinologues français ont dit « on voudrait la suite, on en veut davantage ».
Donc on voulait le grand Ricci.
Donc on est arrivé au grand Ricci, composé sur ordinateur, notamment par le père Yves Camus, 13 000 caractères, 250 000 expressions. Donc ce livre a été publié au début de 2001, avec le secours du reste de pas mal de mécènes français et avec l'aide des experts sinologues de France et de Navarre. Et maintenant, ce dictionnaire est mis sur CD-ROM et il est en vente dans le commerce, je crois, depuis 15 jours.
Il est disponible. Eh bien, on donnera sur Canal Academy toutes les informations pour pouvoir se le procurer, de même que le livre dont nous avons parlé avec le père Michel Masson, Liang Shuming, les idées maîtresses de la culture chinoise, publié par l'Institut Ricci et les éditions du CERF. Merci mon père d'être venu jusqu'à nous. Et puis, bonne continuation pour continuer à travailler sur la culture chinoise et la langue chinoise.
Merci.